Donc d'abord, je vais vous remercier pour cette opportunité, cette occasion que moi, en tant qu'étudiant, vous m'avez donnée de pouvoir travailler sur mon sujet de thèse d'une manière un peu différente par rapport à mon approche. Je me suis demandé, est-ce que la sexualité hors mariage peut-elle devenir halal? Quelle technique adopte-t-il l'individu pour analyser sa conduite sexuelle dans l'interdit? Comment les corps peuvent se faire l'objet du halal? C'est à partir de ces questions que cette communication essaiera de décrire comment les rapports à la norme religieuse peuvent devenir l'espace de construction d'une discipline personnelle du corps capable de guider l'individu vers la redéfinition de sa conduite sexuelle. Les parcours des réflexions que je propose s'appuient sur une recherche sociologique basée sur un corpus de 5 ans, 7 entretiens et un travail ethnographique qui se poursuit depuis 2 ans, qui s'intéresse aux représentations de la sexualité et aux récits des expériences sexuelles, notamment les expériences hétérosexuelles dans la période préconjugale, d'une population de jeunes hommes marocains, musulmans, émigrés en Europe, en France et en Italie. Les jeunes objets de cette étude sont tous nés au Maroc, ils sont originaires des différentes régions du pays, leur âge est compris entre 20 et 30 ans, et ils ont été repérés dans deux terrains de recherche spécifiques, l'Alsace en France et la Toscane en Italie. J'essaierai d'explorer donc deux questions fondamentales. La manière dont ces jeunes musulmans mobilisent la dimension du corps dans la construction de leur rapport à la norme halal, et quelles stratégies, à la fois pratiques et discursives, élaborent afin de développer une discipline et un contrôle sur leur conduite sexuelle. J'étudierai trois cas spécifiques. Les cas du jeune qui construit un rapport de plus en plus rigide et rigoureux à son expérience sexuelle en raison d'un projet personnel de reconversion et retour à la pratique halal. Les cas, en deuxième lieu, de celui qui raconte avoir arrêté toute relation sexuelle après avoir vécu dans les harems. Et en troisième lieu, les cas de l'abstinent complet de tout rapport sexuel hors mariage. En fait, l'effet d'avoir brisé les murs du lycée, et j'introduis les premiers cas d'études, d'avoir brisé les murs du lycée et n'ayant eu des rapports sexuels hors du cadre conjugal, donc halal, celui du Nikah, pose nombre de questions à ces jeunes adultes. Le cas de Khalid, 28 ans, est particulièrement intéressant pour expliquer la complexité du rapport individuel et individualisé que ces jeunes entretiennent avec la norme halal. Khalid, jeune casablancais émigré en France pendant son adolescence, cohabite avec sa copine française depuis quelques ans. Il raconte comment il est parvenu à arrêter ses aventures sexuelles clandestines avec d'autres filles après avoir expérimenté, je le cite directement, les vrais sangs du haram hors du chez-soi. Il me raconte au cours de l'entretien, « Je me retrouvais toujours à poil dans les lits chez la fille. » Je bouvais toujours avec elle. Je me réveillais les matins et j'étais dégoûté. Chez moi, avec ma copine, je suis toujours tranquille. Pas besoin de boire. Posé. Pas besoin d'aller chercher autre chose. Pas de trucs sales. J'avais bu, j'étais pas à la maison. Et tout ça, c'est sale. Boire, pas dormir à la maison, c'est sale. Donc, j'étais chez une Tunisienne. On parle, on boit et tout. On rigole et tout. Et moi, j'ai faim. Elle me dit, ouais, je vais faire des wings des poulets. En fait, ce sont des wings que tu fais au micro-ondes. Elle me les jette au micro-ondes et je lui dis, mais c'est halal. Elle me dit, ouais, c'est halal. Parce que bon, on se soucie toujours de ses faits si c'est halal ou pas. Même si je bois de l'alcool, même si je suis chez elle, je trompe ma copine, je vais coucher avec elle et tout, malgré que je suis dans les harams total, mais je me soucie quand même que la nourriture va être halal. Je les ai mangés, ils étaient trop bons les trucs. Et je n'avais jamais mangé comme ça. Et depuis, je cherche partout ces wings halal et je ne les ai pas trouvés. Je trouve des wings français, voilà, et ils ne sont pas halal. Tu vois, et ça veut dire que les wings qu'elle m'a sortis ce soir-là, c'était même pas halal. Donc, il n'y avait rien de halal. Rien. Rien. Voilà, la dimension spatiale externe attribuée au haram renvoie ici à deux formes spécifiques de fornication. Celle qui attente au rapport considéré halal avec sa copine, chez soi, celle se référant à la transgression de la norme halal en ce qui concerne la nourriture. Comme le souligne Michel Foucault dans son étude sur les écrits des Cassiens, les sons de la fornication semblent entretenir un lien fort avec la notion de gourmandise, car elle est capable d'allumer dans le corps de l'individu les sentiments de l'adultère et l'amener à la perte de contrôle sur ses actions. Ce sera justement cette perte de contrôle sur son corps, pris au piège du double haram, qui conduira Khalid vers une révision de sa conduite sexuelle. Je le cite, « C'est comme si tu goûtes les harams, tu vois, dégueulasse, je te jure, dégueulasse. Depuis, je ne suis plus allé chercher des filles à gauche et à droite. Je me suis dit, je rentre chez moi, je retourne chez ma copine, je suis bien, vas-y, j'arrête les conneries. Et je me suis mis correct avec elle en attendant de me marier et faire les halal. » Ce n'est pas un hasard, donc, si Khalid fait les liens entre les contextes extérieurs ou chez soi et l'illicite, donc la conduite interdite, l'impure, désignant cet espace à travers toute une série de symboles rappelant les péchés. L'alcool, la nourriture non halal, la saleté, les dégoûts, s'efforçant d'éloigner ses significations de son espace domestique stable. Je n'étais pas à la maison, tout ça c'est sale, chez moi avec ma copine, je suis toujours tranquille, posé. Auquel, à ce cadre de relations avec sa copine, il confère les valeurs du lycée et de la pureté, selon une lecture tout à fait personnelle de la norme halal, vu qu'avec sa copine non plus, il n'est pas marié. Si certains jeunes interviewés essaient de discipliner leur conduite sexuelle dans le but d'en régler les formes et les diriger vers l'horizon du licite, d'autres racontent avoir déjà atteint un contrôle rigoureux de leur sexualité jusqu'à en arrêter la pratique. Nordine, 27 ans, jeune originaire d'Agadir, émigré il y a 10 ans avec ses parents, raconte comment, après avoir vécu ses premières expériences sexuelles en France, il a été envahi par un sentiment de culpabilité face à sa religion, face à ses partenaires et vis-à-vis de son rôle d'homme dans les rapports en couple. La discipline sexuelle élaborée par Nordi s'appuie ici sur l'action d'une particulière technique de soi à laquelle Michel Foucault encore, dans la troisième tombe de l'histoire de la sexualité, consacre une attention spécifique. Foucault, en effet, examine ici les indications adressées aux jeunes par les médecins grecs athénais pour qu'ils puissent mettre en place un régime d'abstinence sexuelle à travers les sports. Les jeunes devraient, selon Athénée, s'évouer à l'activité sportive d'une manière aussi fréquente et systématique qu'ils occupent, engagent et fatiguent leur corps et leur esprit afin de réprimer les instances sexuelles et les diriger autrement. Le récit d'Enordine, c'est dans ce sens particulièrement pertinent. Je lui demande au cours de l'entretien, « Tu fais comment alors pour ne pas tomber dans l'envie d'avoir un rapport ?» Et il me répond, « Je joue au foot. » Et il rit. Je te promets, les sports, ça marche. Je n'ai pas de temps libre si j'ai fait du sport. Lundi, entraînement. Mardi, entraînement. Mercredi, entraînement. Vendredi, les matchs. Samedi, je travaille un peu avec mon père. Dimanche, encore le foot avec les amis. Et pendant la semaine, j'essaie toujours de ne jamais rester tout seul chez moi sans rien faire. Ça met des temps et ça marche. Ça occupe mon temps. Quand je suis à la fac, quand je ne suis pas à la fac. Depuis que j'ai fait ça, je prends soin de moi-même, de mon corps. Comme ça, j'évite les péchés. Et je te promets, ça marche. C'est le cas aussi d'un autre jeune, Abdel, 22 ans, marocain des fesses, arrivé en Italie avec ses parents à l'âge de 13 ans, qui vit à présent une phase d'abstinence des relations sexuelles qui se poursuit désormais depuis 2 ans. Abdel explique que sa décision d'arrêter avec tout rapport sexuel et toute forme d'autoritisme a été dictée par un épisode particulier vécu un jour quand, de retour chez soi après avoir passé un après-midi avec sa copine, il est tombé dans un sentiment de tristesse inexplicable au départ. Je le cite, « Ce n'était pas la première fois, mais je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je ne comprenais pas beaucoup pourquoi au début, mais je me sentais mal comme si j'étais sale. » Sauf que, et je ne sais pas s'il a été un signe du destin, dès que je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé sur une chaîne arabe et il y avait un imam qui parlait exactement de ma situation. Il était comme en train de parler avec moi directement. Il parlait d'un mec qui vivait une histoire haram. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre dans les harams comme ça, ne pas être heureux à chaque fois que j'étais avec elle. Donc Abdel affirme alors que maintenant son projet est de regagner, je le cite, une deuxième virginité en respectant la règle religieuse dans l'attente de se marier. Et il finit par évoquer encore une fois la valeur de l'activité sportive et de l'effort physique afin de soutenir son récit. Je résiste en fait, je gêne et Dieu me donne la force pour continuer. C'est comme un entraînement comme pendant les ramadans. Moi j'ai toujours fait de l'athlétisme et en fait les principes c'est les mêmes. Il faut s'entraîner pour résister à l'effort. Les cas de Nordine et Abdel introduisent celui des abstinents. Les abstinences, dans ces cas, ne signifient pas forcément la renonce totale à toute activité sexuelle, mais se réfère plutôt au fait d'éviter tout rapport sexuel avec une fille hors du cadre du mariage, dans le but déclaré par ces jeunes directement au cours des entretiens, de garder leur virginité et respecter la règle religieuse à laquelle ils s'attachent. Pour ces jeunes, renoncer au sexe signifie d'abord devenir, je les cite, des bons musulmans, à travers l'exercice de la maîtrise du corps et de leur conduite sexuelle, donc mettant en pratique une éthique d'action qui, dans leur récit toujours, je le précise, s'appuie premièrement sur le respect des préceptes de la religion musulmane et notamment sur la référence à l'effort physique et mental contre les dangers du péché, mobilisé notamment pour les rapports avec, à travers la métaphore du combat. Les récits de Bilal, 22 ans, originaire des Rabats, arrivé en France à l'âge de 14 ans, avec ses parents, se révèlent emblématiques pour expliquer la compénétration de la dimension spirituelle et physique qui définit l'essence d'une vraie, d'une véritable technique de soi. Chez Bilal, la maîtrise du corps se synthétise par l'élaboration d'une discipline physique stricte et rigoureuse qui oriente aussi l'effort d'abstinence sexuelle. Bilal, jeune au physique sculpté, n'hésite pas à raconter comment son investissement dans la pratique sportive a fini par devenir une vraie technique de contrôle sur son corps pour ne pas tomber dans les péchés sexuels. Je le cite. « Tu sais que moi, je pense plus à la musculation que fille. En fait, on va dire, c'est pour ça que j'ai fait de la musculation. En fait, c'est peut-être inconscient. Je ne dis pas que j'ai commencé pour ne pas avoir des filles, mais ça fait 5 ans et depuis, je vis différemment. Je ne pense pas à ce genre de trucs. Les sexes, les soirées, j'ai fait une vie saine. Je dors mieux, je mange sain, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de sexe. Je suis tombé dedans, je sais. Mais je suis content parce que ça me permet de ne pas penser aux filles. » La discipline et les contrôles qu'il impose à son corps à travers son activité sportive se manifestent bientôt comme un outil d'affirmation de son identité musulmane. Je suis un musulman qui veut être un bon musulman. Je ne dis pas d'être un bon musulman, mais j'ai fait tout pour devenir un bon musulman. Et la musculation, ça m'aide. L'islam, c'est une religion pour se prendre soin de son corps. C'est écrit dans les hadiths. Et moi, la musculation, pour moi, c'est partie de la religion. C'est ma manière de suivre la religion. En fait, la religion passe avant tout, mais finalement, j'ai fait ça en complément pour ne pas dévier de la religion. Il y a un lien entre les deux parce qu'en même temps, ça légitime la musculation. C'est les deux, ils vont ensemble. C'est ici, en fait, que la maîtrise du corps par les biais de l'activité sportive devient, comme on l'avait remarqué tout à l'heure dans les cas de Nordine, une stratégie individuelle afin d'occuper son temps et s'empêcher de penser au plaisir sexuel en dirigeant les instincts sur d'autres buts qui puissent les sublimer et donc les dominer. Moi, je suis strict avec moi-même. J'organise toute ma journée. Je n'ai pas de temps libre pour penser aux filles. J'ai un programme à suivre. Je suis rigoureux. Ma journée, elle est déjà programmée dans ma tête. Je dois manger 5 fois par jour. Je dois m'entraîner au moins une fois par jour. Ça me permet de ne pas perdre mon temps, courir après les filles, chercher du sexe, etc. Moi, je vais rester vierge parce que j'ai ce respect pour moi. Si je perds les bons chez moi, je suis foutu. La musculation, les études, la religion, les enseignements de mes parents, je vais tout perdre juste pour satisfaire les besoins d'un moment. Tout au long de ces parcours, nous avons rencontré des récits au caractère, bien évidemment, fort normatif. En effet, les jeunes interviewés nous offrent une image de leur rapport à la norme halal qui parfois paraît artificiellement construite. Autrement dit, il nous semble que ces jeunes essaient souvent de se rapprocher et de rapprocher délibérément leur récit du cadre normatif auquel ils s'attachent afin de légitimer et justifier leur conduite. La norme halal n'est pas forcément respectée, mais ces jeunes cherchent cependant à remarquer constamment la validité, mais dans l'espace d'une action et d'un cadre des pratiques interdites patentes. On observe parfois une sorte de mise en scène de leur identité et de leur conduite en tant que musulmans. Donc, comment peut-on traiter cette normativité du discours et du récit d'entretien? Pendant les interviews, ces jeunes évoquent les cadres de l'interdit de manière continuelle et réitérée. Et sur celle-ci, construisent leur rapport au pôle du halal et du haram. Cependant, quoique évoquée par les biais de la religion, cette référence à la norme et à l'interdit se révèle, nous semble-t-il, les résultats d'un ensemble de logiques de logique plurielle qui se montre au jeu du chercheur sur l'étiquette de la religion, mais qui, en réalité, sous-entend, nous semble-t-il, un ensemble beaucoup plus complexe de dynamiques. En effet, la religion semble la référence manifeste pour représenter un entrepôt synchronique d'appartenance bien plus vaste, qui marque les trajectoires individuelles de ces jeunes et leur parcours de socialisation. Un dépôt actuel de plusieurs scénarios de socialisation qui devient le terrain d'élaboration, construction et déconstruction d'un discours spécifique sur la conduite sexuelle ainsi que sur sa mise en récit. Les trajectoires et les trajets personnels de la socialisation à la norme religieuse qui se font par les rapports aux parents, aux pères, aux amis, aux partenaires et bien sûr à la norme halal se déploient sur un axe diachronique qui accompagne les étapes biographiques de chaque jeune pour se révéler ici et maintenant dans l'espace de l'entretien et de la mise en récit des expériences sexuelles sous forme synchronique en tant qu'arrangement personnel de la norme religieuse partagée. Autrement dit, la religion semble ne pas vraiment essentialiser les trajectoires de ces jeunes, mais plutôt elle est mobilisée en tant que repère les plus visibles du rapport individuel que chaque jeune entretient avec son propre entrepôt d'appartenance. Cet entrepôt, en effet, offre une pluralité d'opportunités qui peuvent être saisies ou pas pour la renégociation de la valeur et du poids de la norme religieuse, devenant tantôt l'occasion pour en réaffirmer les sons, tantôt l'espace pour sortir de son autorité, ses logiques, ses contraintes, entre dépendance et émancipation. La norme religieuse, donc, n'est pas une règle fixe pour ces jeunes qu'un espace de construction de leur conduite dans la sexualité, voire les terrains d'élaboration d'un rapport tout à fait personnel et arbitraire à l'identité musulmane. Donc, pour conclure, les rapports que chaque jeune entretient avec cet entrepôt synchronique d'appartenance est le lieu où chacun construit sa propre expérience et son propre récit sexuel. L'investissement de la dimension du corps en tant qu'outil primaire pour s'attacher au sens de la norme halal est un trait commun à tous ces jeunes. La normativité saisie dans leur récit est une partie intégrante de ces rapports corporels à la norme, puisqu'elle permet d'en conserver intacte la valeur pour ces jeunes et d'en remarquer leur attachement même si leur pratique effective ne la respecte pas. La norme halal devient donc la source de légitimation d'un discours, des pratiques, des techniques du corps et des représentations de la sexualité, et ainsi faisant, elle se révèle dès moins un objet prescriptif qu'un outil d'individualisation. Elle n'est pas un ordre péremptoire, mais plutôt une modalité des relations à l'espace, à son corps, aux parents, aux pères, à la construction de soi et de son identité, musulmane, juvénile, sexuelle, etc. Ici, la norme religieuse s'est fait les dépôts pluriels et synchroniques des scénarios des vies et des socialisations individuelles, où les jeunes puissent dedans de manière constante pour définir sa conduite et ses choix, pour se raconter et se situer, se perdre et se retrouver ensuite. Je vous remercie.